Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Au moins 40 personnes ont péri dans un naufrage et plusieurs autres disparues. L'accident est survenu dans la nuit de vendredi à hier samedi au large de la ville de Mbandaka dans l'Équateur. L'embarcation s'est rendue à Bolomba Centre. La surcharge en serait la cause. Dans l'actualité aussi, ce SOS du secrétaire administratif de Mamové dans le territoire de Beni. L'antenne locale du réseau de téléphonie mobile est en panne depuis 2 mois. Du coup, il y a difficulté de remonter des alertes sécuritaires dans cette zone où les EDF sont actifs depuis quelques mois. Célestin Ngoy plaide pour la réhabilitation urgente de cette antenne. Et puis, l'invité de ce matin, Bertin Toumba, président de l'Association pour la promotion et la métrologie et la normalisation en RDC. Il s'exprime sur la Journée internationale de la normalisation, journée célébrée le 14 octobre de chaque année. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par la province de l'Équateur. Environ 40 morts et plusieurs disparus. C'est le bilan provisoire d'un naufrage survenu dans la nuit de vendredi à hier samedi au large de la ville de Mbandaka. Le HB Mapamboli, embarcation en bois qui a coulé, s'est rendue à Bolomba Centre. Elle a été partiellement remontée afin de faciliter les recherches de nombreux corps encore enfouis sous les eaux du fleuve. Le récit de Paul-Richard Malengela.
Un des rescapés rencontrés sur le lieu du drame ce samedi affirme que le HB Mapamboli a quitté le port de Bankita en Mbandaka le vendredi vers 21h en direction de Bolomba Centre. À son bord, plus de 100 passagers et de marchandises, dont des matériaux de construction destinés aux travaux de 145 territoires. Mais la baleinière a eu du mal à avancer à cause de la surcharge. Pendant que l'équipage tentait de rééquilibrer l'embarcation, celle-ci a ensuite basculé et projeté les passagers avec leurs biens avant de couler entièrement. Plusieurs personnes se sont alors noyées. Le bilan provisoire ce samedi avant midi, selon les familles des victimes et la société civile, s'est élevé à environ 40 corps desséchés, parmi lesquels la chargée de logistique de la CENI Bolomba en dénombre aussi plusieurs disparus et quelques rescapés. Vu l'ampleur des dégâts, le président intérimaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Peter Lopos, a proposé de décréter un deuil provincial. Mais cet élu de Bolomba a aussi demandé l'implication urgente du chef de l'État et du gouvernement tant central que provincial afin de venir en aide aux sinistrés et aux familles de victimes, notamment par la prise en charge des obsèques des victimes et le rapatriement des rescapés à Bolomba, car certains corps ont été acheminés à la morgue par les autorités provinciales, mais d'autres ont été récupérés par les familles de victimes sur place à Mbandaka. Paul Charmalengela, Mbandaka, Radio Okapi.
Pour éviter justement des naufrages aux embarcations dans le pays, le président de la République demande au gouvernement de capitaliser le fleuve Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tout le territoire national. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 115e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Le chef de l'État a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages aux embarcations. On écoute à ce sujet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Extrait proposé par Alain Rong.
Le président de la République a terminé sa communication en évoquant les naufrages des embarcations sur les réseaux fluviales et lacustres. Le président de la République a engagé le gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux. D'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages aux embarcations avec des lourds bilans humains et matériels, dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation en la matière. Face à cette situation, il a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense ainsi que le ministre de Transport d'élaborer un plan d'action afin de faire jouer au fleuve Congo le rôle du moteur du développement économique ainsi que des stratégies fortes au travers des différentes structures concernées.
Rendons-nous au Sud Kivu. La police de circulation routière a entamé ce week-end une campagne de sensibilisation des conducteurs sur le code de la route et les contraventions routières. Ceci en prévision de l'utilisation prochainement des produits indélébiles à marquer sur tout véhicule en conflit avec le code de la route. C'est le gouverneur de province qui a offert vendredi ces matériels au commissaire provincial de la police nationale Sud Kivu. On écoute à ce sujet le général Roger Issio dans ses propos choisis par Emmanuel Elamegi.
Le commissariat provincial de la police nationale du Sud Kivu a l'honneur de présenter à la population les matériels que nous venons d'acquérir, entre autres les spray. C'est un produit indélébile qu'on va commencer à marquer sur les véhicules qui feront l'objet des contraventions routières, notamment les excès de vitesse, les arrêts et stationnements intempestifs, les défauts de chargement. Ça va concerner surtout les récidivistes. C'est comme des marqueurs indélébiles. C'est une couleur, une fois apposée sur le véhicule, n'a pas d'antidote. Donc, soit le propriétaire du véhicule aura à repeindre la partie qui a été marquée, soit il aura à gratter. Alors, voyez les conséquences. Si vous grattez, vous serez déjà identifié que votre véhicule fait beaucoup de dégâts sur la chaussée. Nous avons jugé bon d'en faire une large sensibilisation et c'est la police de circulation routière qui sera chargée de ce travail. Donc, j'en appelle à la conscience de tous les automobilistes et autres usagers de la route pendant la période qu'on fixe à partir d'aujourd'hui. De 10 jours de se conformer au code de la route pour éviter les désagréments.
Merci de nous recevoir à Mbujimayi. Plus de 750 personnes propriétaires des parcelles concernées par le désintéressement reçoivent depuis vendredi des mains de la gouverneure de province intérimaire des chèques afin de quitter leur lieu d'habitation. Un ultimatum de 15 jours leur est accordé dès la réception du chèque. Il s'agit de l'espace qui part de la nationale numéro 1, donc sur l'avenue Inga, dans sa partie comprise entre l'avenue Zaïre, retenue comme entrée de la nouvelle aérogare, et l'avenue Dodoma pour déboucher sur l'avenue Fatih ex-Lusambo, qui est retenu comme la sortie de l'aéroport. Cette décision a été prise par l'État congolais afin de permettre aux entreprises chinoises de poursuivre les travaux déjà amorcés de construction et modernisation de l'aéroport international de Bipemba à Mbujimayi. La gouverneure de province intérimaire a indiqué que la hauteur de l'enveloppe dépend de la valeur de l'investissement effectué par les propriétaires. Julie Kalenga explique au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
On nous construit un bon aéroport. Les visiteurs, les touristes peuvent commencer à venir ici et dormir même pendant une semaine dans des hôtels qui seront construits à cet endroit. Les voyageurs qui souhaitent partir à l'étranger auront la possibilité de prendre le vol à partir d'ici. En tant que gouverneur et maire, j'ai appris que vous voulez qu'on obtienne pour vous l'espace, n'est-ce pas? Ça me fait aussi mal. Oui, j'ai déployé une équipe sur terrain pour examiner la question. Dès que nous trouvons un terrain, nous allons nous impliquer pour le morceler pour vous. Pour le moment, on va bientôt vous remettre le chèque après avoir évalué la valeur, la dimension de la parcelle et aussi l'investissement engagé par le propriétaire. Donc, le montant ne sera pas le même. Les fonds seront retirés seulement à la banque avec le chèque. Même s'il y a un contrôle, on saura identifier facilement les bénéficiaires. Je procède à la remise symbolique des chèques à 2 ou 3 personnes et l'opération va se poursuivre demain. Après la réception du chèque, vous avez 15 jours pour quitter.
Dans l'actualité aussi, sachez que l'Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé hier samedi pour la énième fois la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. D'après le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, ce projet de loi est une urgence nationale, raison pour laquelle la Chambre basse du Parlement a tenu une plénière spéciale un samedi, généralement consacrée au repos. Dans la présentation de l'économie de ce texte, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a précisé que le président de la République public vient d'opter pour un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle va connaître sa fin. En attendant l'activation de ce dispositif transitoire, le gouvernement a sollicité la prorogation de l'état de siège pour permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre l'éradication des ennemis dans les agglomérations sous occupation. Autre nouvelle, je vous le disais en titre, dans le territoire de Beni, l'antenne du réseau de téléphonie mobile de Mamové est en panne depuis 2 mois. Nous sommes dans la localité de Babilaba Kaiko, une zone située à l'ouest de Icha où les rebelles des EDF sont actifs depuis quelques mois. Le secrétaire administratif de la localité déplore la situation et affirme que cela ne facilite pas la remontée des alertes sécuritaires dans la région. Il plaide pour la réhabilitation urgente de cette antenne pour le salut de la population. Célestin Ngoy explique la situation au micro de Sadiq Aboubakar.
Ça fait maintenant 2 mois que les réseaux n'existent plus ici à Mamové. Bien avant, il y avait Airtel qui avait fonctionné pendant au moins 2 ans. Maintenant, nous avions travaillé avec Vodacom qui aussi n'existe plus.
Et c'est quoi le problème?
Dans un premier temps, lorsqu'il y avait passage des ADF en Alou, ils avaient d'abord détruit quelques panneaux. Et de là, on avait ramené d'autres panneaux, mais qui aussi, je ne sais pas si c'est problème de batterie ou c'est problème de panneaux. Donc c'est là, c'est un cas qui concerne rien que les techniciens ou les ingénieurs. Ça fait maintenant 2 semaines. Un technicien est venu ici, il avait parlé des problèmes de panneaux et d'autres pièces à l'intérieur, mais il était parti jusqu'à maintenant. Vous voyez l'importance du réseau, combien de fois ça transmet rapidement, même quand il y a alerte, les messages circulent librement. Alors c'est un grand problème que nous traversons ici. Vraiment, ça me préoccupe aussi beaucoup.
Tous nos efforts pour avoir la réaction des maisons de téléphonie cellulaire n'ont pas abouti. Il s'est tenu vendredi et hier samedi à l'Université de Kinshasa les premières journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication, JOSIC. Les enseignants de l'Université de Kinshasa, les chercheurs et les professionnels des communications et médias réfléchissent sur l'importance des sciences de l'information et de la communication dans la société congolaise face aux problèmes de désinformation et de manipulation déplorés pendant cette période préélectorale. Les experts en communication invitent les journalistes congolais à une vérification systématique de toute information avant sa diffusion. Pour le chef du département des sciences de l'information et de la communication, l'avènement du numérique autorise aussi aux personnes malveillantes à diffuser des fake news dangereuses pour la société. Le professeur Vicky Elongo explique au micro de Michel Kifindangoy.
Les JOSIC, c'est un lieu, un espace que le département offre à tous les chercheurs de venir cogiter sur la communication. Le deuxième défi consistera justement à la mise en place d'un organe de publication que nous avons dénommé le communicologue, qui sera la première revue publiée par le département de communication depuis que ce département existe.
L'université apporte des solutions aux problèmes sociétaux et aujourd'hui, à la veille des élections, il y a la problématique de la manipulation et surtout la désinformation. Quelles solutions magiques proposez-vous à travers les JOSIC?
Je pense que l'un des intervenants a évoqué une technique importante, les fact-checking. Je crois que l'attitude, la technique, la stratégie à adopter, c'est la vérification des faits. Le journaliste ne peut pas se permettre de publier une information sans l'avoir vérifiée.
Culture. La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre rationalité et rentabilité, c'est le titre de l'ouvrage de 456 pages écrit par le professeur et député national Claude Nyamugabo. La cérémonie de vernissage a eu lieu hier au Palais du Peuple à Kinshasa. L'ouvrage est préfacé par le professeur Jean-Pierre Mavungu, juge à la Cour constitutionnelle. Le livre analyse les controverses qui transparaissent d'une part pour les avantages ou opportunités pour la RDC à se retrouver au sein de plusieurs organisations régionale d'intégration africaine et de l'autre les inconvénients issus de ces multiples adhésions. Dans cet ouvrage, l'auteur livre une réflexion stratégique sur les options les plus adaptées quant à cette problématique. D'après l'auteur, la rationalité dans la multi-appartenance suppose un choix judicieux des communautés auxquelles il faudra adhérer. Claude Nyamugabo, auteur du livre, donne ici quelques aspects de ses conclusions au micro de Billy Van Lutumba.
Il faut, avant toute appartenance à une organisation, avant toute adhésion, faire une étude de faisabilité. Consulter les Congolais, consulter les experts en vue d'avoir des retombées dans ces organisations parce que c'est vrai, la République démocratique du Congo, vu sa position géostratégique, est appelée à être membres des organisations. Nous avons mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation. Un des indicateurs, par exemple, il faut pouvoir payer les cotisations parce que payer les cotisations vous donne droit à la parole, vous donne également droit à placer les nationaux dans les différentes organisations. Nous ne prenons pas part aux réunions au plus haut sommet et c'est ici l'occasion de saluer les multiples visites du chef de l'État à travers les organisations internationales. Un des indicateurs d'une bonne participation à une organisation internationale, c'est la participation au plus haut niveau. Et le plus haut niveau ici, c'est le niveau du chef de l'État. Il y a des critères qui vont permettre à ce que notre pays fasse une participation rationnelle, donc bien pensée, et une participation qui puisse avoir des retombées pour le peuple congolais.
Actualité internationale.
L'ONU s'inquiète des conditions de retrait de sa mission au Mali. Les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude samedi face à l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali. Le départ de la mission de l'ONU MINUSMA, prévu d'ici au 31 décembre, pourrait être retardé.
L'invité.
Il s'agit de Bertin Toumba, président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC. Il est aussi membre du conseil d'administration de la Fédération internationale des usagers des normes. Il s'exprime sur la journée internationale de la normalisation, célébrée le 14 octobre de chaque année. Bertin Toumba est avec Alain Hirong.
Bertin Toumba, bonjour.
Bonjour, monsieur Alain Hirong.
Commencez par nous expliquer ce concept de normalisation et de métrologie.
Merci beaucoup pour la question et surtout pour l'intérêt que vous portez à notre organisation et aux activités que nous sommes en train de mener sur le terrain. La normalisation, c'est l'activité qui peut être définie simplement comme étant celle consistant à établir les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre. La normalisation, en fait, procède de la prise de conscience des membres d'une communauté à se mettre ensemble, trouver un référentiel commun pour faciliter le langage dans la communauté. Et puis, pour aider à résoudre des problèmes qui se posent de manière récurrente et ensemble faire face aux risques potentiels qui se jouent dans la communauté en anticipant des solutions sur les problèmes potentiels de la communauté.
Allons-y par un exemple concret pour faciliter la compréhension.
Le pain. Souvent, les gens se plaignent, le prix monte. Par rapport à quoi? Donc, en amont, les caractéristiques du pain doivent être définies. Il faut qu'il y ait des normes sur le pain, qu'on sache qu'il y a des caractéristiques de pain et tout ça. Vous voyez ça? Donc, quand on dit on achète un pain de telle qualité, on doit savoir que cette qualité correspond à telle caractéristique qui doivent être connues en amont.
C'est-à-dire le poids du pain,
le poids, le grammage,
le dosage, la qualité, tout ça, c'est à prendre en compte.
C'est à prendre en compte que c'est la même logique pour les médicaments, pour tous les produits de consommation. Il faut qu'en amont, ça soit défini. Et la mesure, aujourd'hui, le monde entier utilise le mètre pour la longueur. Tout ça, c'est aussi une forme de norme.
Quels sont les avantages de la pratique correcte de la normalisation?
La pratique correcte de la normalisation facilite les échanges entre personnes, entre États, aide à connaître les règles de jeu. En fait, aujourd'hui, le commerce international, c'est un contexte de compétition. Et la règle de jeu, c'est la norme internationale. Parce que pour vendre, il faut répondre aux exigences du destinataire du produit. Donc aujourd'hui, la norme se présente comme étant le langage commun pour faciliter les échanges internationaux.
Quelle évaluation faites-vous de la normalisation en RDC?
En RDC, c'est un problème. Nous, en tant qu'association dédiée à la promotion de la normalisation, nous avons mené des campagnes sur le terrain, nous avons même mené le plaidoyer au niveau du Parlement, et grâce à notre plaidoyer, aujourd'hui, il y a eu la proposition de loi sur la normalisation qui a été initiée par l'honorable David Mutamadibé de heureuse mémoire, qui a été votée en 2014. Au jour d'aujourd'hui, ça va faire 10 ans l'année prochaine que ce dossier traîne à la Chambre basse.
Concrètement, quand vous dites qu'en RDC, la normalisation pose problème, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les textes qui régissent la normalisation dans notre pays ici sont en contradiction avec les principes de base de la normalisation. Aujourd'hui, en matière de métropolisation, on se réfère parfois aux textes coloniaux, même à des textes qui datent de 1912. Au texte de 1959, alors que le concept a beaucoup évolué. Nous disons que cette situation constitue un frein à tous les efforts qui sont fournis par les gouvernements pour développer notre pays. C'est vrai qu'il y a une activité qui est développée, mais cette activité ne peut pas produire les effets escomptés parce qu'on ne respecte pas les principes et le cadre légal pose problème.
Et donc concrètement, en partant d'un autre exemple, il nous est difficile d'exporter en RDC parce qu'on ne respecte pas les normes.
Tout à fait. D'abord, au niveau local, on a un problème. Je dis que dans notre pays, c'est un problème d'intégration nationale. Et je dis que même les mesures, il y avait des normes de mesures. À Kinshasa, on parle Sakombi. Est-ce que le Sakombi est utilisé à Lubumbashi? Est-ce que le Sakombi est utilisé dans le Kasai? À Lubumbashi, c'est le Kambeketi. Au Kasai, c'est Meka.
Meka.
Donc c'est un élément important d'intégration nationale. Par rapport à l'intégration régionale, j'ai dit et j'ai toujours l'habitude de poser la question chaque fois que nous faisons nos campagnes de sensibilisation. Est-ce que vous vous êtes déjà donné la peine de vous conformer à une norme congolaise, quel que soit le domaine, quel que soit le produit? Ça, c'est un problème. Ça veut dire que là où l'armement se pratique de manière rationnelle, on doit avoir des certifications de conformité aux normes nationales. Est-ce que vous avez fait ça selon la norme congolaise? C'est ça le problème. Donc, dans d'autres pays, ça marche, mais chez nous, c'est encore un problème. Et cela constitue un frein à tous les efforts de développement de notre pays.
Quelles sont vos principales recommandations concernant la normalisation en RDC pour terminer?
La principale recommandation est adressée au niveau du Parlement. Parce que nous savons, et nous avons été au Parlement, avec notre plaidoyer, avec notre sensibilisation, le Sénat a voté cette loi en 2014. Au jour d'aujourd'hui, en matière de normalisation, le Congo n'a pas de texte pertinent en matière de normalisation. Et c'est un effort à faire. Donc, quand une problématique est prise en charge au niveau du Parlement, ça veut dire que ça dépasse les compétences d'autres structures. Donc, nous adressons au Parlement, à la primature et à la présidence de la République, pour dire que, aujourd'hui, la situation actuelle constitue une pesanteur à tous les efforts de développement de notre pays.
Bertin Toumba, je vous remercie.
Le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC répondait aux questions de Alain Irung. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.